Musique Culte saison 3, c'est la Electric Miles Davis Story en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 9, les sessions du Cellar Door. Le Cellar Door était un minuscule club de jazz de 160 places, situé dans le quartier de Georgetown à Washington DC. Il a fonctionné de 64 à 82. Il a notamment servi de tremplin ou de galop d'essai à de nombreux artistes de tous horizons. On peut citer Neil Young, J.J. Cale, Richie Evans, Charlie Mingus, Joni Mitchell, Patti Smith ou encore les Pointer Sisters. Miles Davis s'y produisit du 16 au 19 décembre 1970. La session du 19 décembre fut intégrée dans le double album Live Evil, publié en novembre 1971, où la prestation du guitariste John McLaughlin fut très remarquée. Cette période fut cruciale car elle marqua un nouveau départ en live pour Miles autour d'un noyau constitué de Gary Bartz au sax et aux flûtes, Keith Jarrett au piano Fender, Michael Henderson à la basse et Jack DeJohnette à la batterie. Un quintet sur lequel s'est greffé le percussionniste brésilien Ayrto Moreira. Les performances du Cellar Door sont restées dans les oubliettes de 70 à 2005, date à laquelle la maison de disque Columbia décida de sortir l'intégralité des sets joués chaque jour du 16 au 19 décembre sous la forme d'un luxueux coffret de 6 CD. Ce fut l'occasion d'entendre des morceaux aux influences très rock, sous l'impulsion du trio Bartz, Jarrett et DeJohnette. Plus de rythme, un gros son, plus d'agressivité dans le jeu, selon le biographe Paul Tingen. Le saxo Gary Bartz a du reste confié que l'un des surnoms du groupe était Miles Davis and the House Rockers. Nous jouions de façon tout aussi intense que n'importe quel groupe de rock que j'ai pu côtoyer, et nous jouions certainement aussi fort. Pourtant, le claviériste avoua des années plus tard, en décembre 2000, qu'il ne pouvait plus supporter le bruit, à tel point que Jack DeJohnette et lui-même se mettaient du coton dans les oreilles. Pourtant, le groupe est resté relativement stable jusqu'au début de 72. Trois nouvelles compositions ont même été créées pendant cette période, Honky Tonk, Inamorata Funky Tonk et un court extrait de What I Say, entendu en introduction de cette chronique, le morceau original faisant plus de 14 minutes. Dans sa biographie Miles Beyond, Tingen note que la setlist était elle aussi remarquablement stable et débutait souvent avec Directions de Joe Zawinul, qui pouvait s'étendre jusqu'à 20 minutes, mais que j'ai dû raccourcir pour l'occasion.
Thank you.
J'avais mentionné John McLaughlin précédemment. Celui-ci n'est apparu qu'au dernier moment des Cellador Sessions, en l'occurrence lors des sessions du 19 décembre, car selon Miles, il lui manquait encore un élément qu'il n'était pas parvenu identifier dans sa musique. Il est à noter que ces fameuses sessions sont les seules ayant capté Miles et McLaughlin en live ensemble. Quel dommage, car ces deux-là auraient vraiment fait des étincelles. Malheureusement, l'anglais décida de fonder le Mahavishnu Orchestra et c'est tout un pan de l'histoire du jazz fusion qui allait s'ouvrir. Éternel râleur, Keith Jarrett estimait par ailleurs que la venue du guitariste avait brisé la dynamique collective du groupe. Cependant, à l'écoute des 6 CD, l'auditeur se rend compte que ce groupe justement semble quelque peu tiraillé entre la tendance free portée par Jarrett et le courant plus rock et soul, joué par Michael Anderson. A noter que sur la fin du morceau Innamorata, on entend les paroles de l'acteur Conrad Roberts comme scandées par-dessus la musique. Les sessions du Cellador marquent la fin d'une longue tournée américaine qui avait débuté en octobre 70. L'année suivante, Moreira et De Jonette quittèrent le groupe. Une autre ère allait s'ouvrir, passionnante, notamment avec les fabuleux albums A Tribute to Jack Johnson et On the Corner, évoqué dans des chroniques précédentes. Sera question de Black Beauty. D'ici là, bonjour chez vous.